Vous écoutez RTL.
Et tout de suite, un voyage sous haute surveillance. Bonjour Éric Laforgue.
Bonjour.
Soyez le bienvenu. Vous
Bonjour.
Êtes photo-reporter et vous êtes allé plusieurs fois en Corée du Nord. Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui vous fascine là-bas?
Qu'est-ce qui me fascinait? Parce que malheureusement, je ne peux plus y aller.
Vous êtes banni?
Oui, ils ne sont pas contents des photos que j'ai pu rapporter. Donc j'y suis allé la première fois en 2008. Jusqu'en 2013, 6 fois. Mmh. Et au tout départ, pour être honnête, c'était vraiment une curiosité. Parce que personne n'y allait, très très peu de Français y allaient, uniquement des gens de la CGT ou bien affiliés à...
Et après, c'était quoi, de l'amour?
Après, c'était aussi un intérêt professionnel, honnêtement. Ouais, c'était aller faire de la vidéo. J'ai pu travailler pour 7 à 8, par exemple, des choses comme ça.
Bonne émission.
Ouais, très, présenté très bonne... par un très, bonne très bon animateur qui est très bon en radio aujourd'hui.
Du coup, voilà, j'y suis allé. Et puis, chaque année, j'y allais parce qu'ils ouvraient une nouvelle destination dans le pays.
Pourquoi vous êtes banni, Éric Laforgue? Il y a quoi dans vos photos? Elles sont trash? Elles sont violentes?
Non, du tout. Non, je montre la réalité comme je montrerai pour l'Inde, pour le Costa Rica, pour n'importe quel pays. Ouais. Sauf que pour un Coréen du Nord, tout doit être contrôlé. Donc, par exemple, on ne montre pas un soldat qui dort dans un pré. Ça n'est pas l'image que la Corée du Nord souhaite donner de son armée.
Oui, vous avez photographié la vie, en fait.
Tout à fait, voilà. Et des choses sont complètement banales. Par exemple, une vieille dame qui sourit, la photo est dans le livre, et il lui manque une ou deux dents. Non, on ne fait pas de photos de gens à qui il manque une dent, parce que ça n'est pas l'image non plus qu'on veut donner. Donc, du coup, c'était une petite bataille. Et puis, en fait, avec les moyens technologiques maintenant, on peut récupérer les photos effacées sur une carte mémoire avec un petit logiciel. Et donc, j'ai effacé sur place, mais je récupérais en rentrant après.
Et vous nous les faites découvrir aujourd'hui dans ce livre, Banni de Corée du Nord. C'est aux éditions Hachette Tourisme.
Et cette vie quotidienne, finalement, que vous avez partagée, filmée, photographiée, vous allez nous la raconter dans un instant. Restez avec nous sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
C'est le pays de tous les fantasmes et de toutes les inquiétudes. La Corée du Nord, l'une des dictatures les plus féroces au monde.
RTL. Quand Kim Jong-un a été nommé dirigeant de Corée du Nord, il y avait beaucoup de propagande. Ce qui explique l'image positive que les Nord-Coréens ont eue de lui, Sidonie Bonnec. Et maintenant, quand Kim Jong-un donne un ordre et que quelqu'un ne le suit pas, il peut être exécuté immédiatement. Thomas Hugues.
C'est l'un des pays les plus fermés au monde. Voyage en Corée du Nord avec notre guide personnel, le photo-reporter Éric Laforgue. Alors on va se mettre dans vos pas et puis dans votre œil aussi pour comprendre vraiment ce qui se passe dans ce pays. C'est difficile d'y entrer. Comment vous avez fait?
Alors à l'époque, c'était pas très difficile, ça n'est toujours pas. En fait, c'est plus simple de rentrer en Corée du Nord que de rentrer, par exemple, en Iran, en Russie ou des pays comme ça.
Donc vous dites « Salut, c'est Éric, je suis photoreporter ».
Ah non, je suis toujours allé là-bas en tant que touriste, jamais avec l'objet presse, évidemment. Parce que quand vous y allez en tant que journaliste, il y a des tours maintenant organisés pour les journalistes, notamment il y a 2-3 ans à la mort de Kim Jong-il. Mais moi, je voulais justement pouvoir...
Éviter le safari, c'est ça?
Voilà, parce que là, vous êtes 50 ou une centaine et vous êtes baladé avec un bus de droite à gauche, donc pas
d'intérêt. Donc ça n'a pas été si difficile, mais quand vous arrivez, qui vous accueille, Éric Laforgue?
Alors, quand on arrive, en fait, on arrive avec... Il y a un douanier qui vous accueille, qui vous demande des choses très banales. Est-ce que vous avez un GPS? Est-ce que vous avez des magazines de jeunes filles dénudées? Parce que si. Et est-ce que vous avez des armes sur vous? Donc évidemment, vous essayez de répondre non aux 3 questions. Et ensuite...
Enfin, pour les magazines, on sait que vous en aviez. Voilà.
Jeune et jolie. Franchement, Éric.
Et puis après, vous avez un monsieur qui vous accueille et qui vous dit, voilà, je serai votre guide pendant tout le séjour.
C'est vraiment... Chaque touriste a ça. C'est-à-dire que en tant que touriste, il y a forcément un guide.
Deux guides. Il y a toujours deux guides.
D'accord. Alors,
ce qui fait que quelquefois, ils n'ont pas assez de guides francophones, pour X raisons, parce qu'il y a des diplomates qui voyagent, etc. Mm-hmm. Et donc, du coup, quelquefois, vous avez un guide francophone et espagnol.
Mais attendez, c'est juste pour des petites sorties à Pyongyang, par exemple, ou à la campagne, où il vous suit du matin au soir,
non,
ce guide.
Du matin au soir, vous vivez avec eux. Alors, ça peut être mal pris par certaines personnes. Moi, j'avais pris le parti, justement, d'en faire, entre guillemets, des amis, c'est-à-dire m'intéresser à leur vie, poser des questions. Et ça s'est plutôt bien passé, même s'ils ne bougent pas de leur propagande, même s'ils ne bougent pas de leur certitude.
Il y a des hôtels, il y a des touristes, il y en a beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a une chaîne hôtelière? Est-ce qu'il y a de quoi se loger?
Un buffet, le matin,
petit-déj. Ouais, je veux bien y aller, mais il faut que le petit-déj fasse.
Voilà.
Non, sérieusement, redevenons sérieux. Comment on dort?
Vous avez un hôtel qui est sur une petite île au centre-ville de Pyongyang, qui est un hôtel qui est une copie d'un méridien. Vous voyez, un petit peu comme le méridien qu'on trouve à Montparnasse. Donc avec des chambres, on va dire plutôt 3 étoiles que 5 étoiles. L'eau, l'électricité, tout marche dans l'hôtel, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Le souci, c'est la bouffe, honnêtement.
C'est pas bon.
Dans les hôtels, c'est vraiment pas bon. Alors qu'à côté, quand on insiste, quand on met un petit supplément, on peut aller dans des restaurants pour l'élite, et là, on mange très très bien.
La plupart des touristes viennent de quel pays?
Alors, quand on prend le global, ce sont les Chinois qui viennent le plus.
D'accord.
Pour des raisons géographiques et aussi parce qu'en fait, ils replongent un petit peu dans la vie que connaissaient leur grand-père et leur grand-mère. Donc pour eux, c'est un petit peu un tour historique. Et après, ce sont les Anglais, parce qu'il y a de grosses agences anglaises qui envoient beaucoup, beaucoup de touristes, notamment des jeunes, en Corée du Nord.
Et alors, vous y allez, vous êtes officiellement touriste, mais votre objectif, c'est de faire des photos, des images. Comment on filme la réalité, la pauvreté notamment? Parce que c'est l'image qu'on a de ce pays-là, Corée du Nord.
Alors ça, c'est le plus compliqué. En fait, il faut comprendre que la Corée du Nord, c'est Pyongyang et le reste du pays. À Pyongyang, c'est une vitrine, on le dit souvent, mais c'est une réalité. Vous allez trouver quasiment tout ce que vous voulez. Vous avez besoin d'une bouteille d'eau d'Evian, vous la trouverez au supermarché, la bouteille d'eau d'Evian.
D'accord.
Vous allez la payer en dollars ou en euros, ça sera cher, mais vous la trouverez.
On s'achète un MP3 aussi, de la Hi-Fi.
Aujourd'hui, on trouve tout. Voilà. Aujourd'hui,
dans la capitale.
Dans la capitale. Après, vous avez deux, trois villes comme Wonsan, par exemple, qui est une ville assez importante. Mais dès que vous sortez après dans la campagne, là, on est chez Zola. Là, c'est vraiment la pauvreté crasse. On a beau vous dire tout ce qu'on veut, qu'ils n'ont plus faim, que ça se passe plutôt bien, qu'il y a 4% de croissance, etc. Quand on voit les gens dans la campagne, ça fait vraiment mal au cœur.
Vous avez fait des photos de cette pauvreté, Eric Lafargue. Vous avez pu faire des photos accompagnées de votre guide?
Oui, alors dans ce cas-là, vous les faites plutôt après manger. Parce qu'en Corée du Nord, ils aiment beaucoup le sonju, qui est un alcool de riz. Le chauffeur compris. C'est-à-dire que tous les guides et le chauffeur, on va dire, arrosent leur...
Donc c'est l'heure de la sieste, c'est ça?
Voilà, donc c'est l'heure de la sieste, mais il y en a un qui conduit quand même. Ah. Et là, avec un mode rafale et puis un 300 mm, pour ceux qui connaissent un peu la photographie, vous mettez au fond du bus et vous pouvez capter quand même pas mal de choses.
Vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, mais quelles images de pauvreté vous avez pu capter comme ça dans les campagnes de la Corée du Nord?
Concrètement, quand vous rafalez, comme on dit, en passant en bus, vous vous apercevez que vous avez des enfants en haillon. Vous apercevez que dès qu'une charrette transporte du maïs, vous avez des enfants qui suivent la charrette pour récupérer des grains. Ça, je l'ai vu. Ça, je ne l'ai pas inventé.
Mais c'est-à-dire qu'ils vivent de quoi, les Nord-Coréens? Ils vivent de l'agriculture
À l'extérieur de Pyongyang, oui. C'est un pays totalement agricole. C'est-à-dire que les champs vont même jusque devant les maisons. Sachant que maintenant, les Coréens ont une petite parcelle pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire pousser du maïs, etc., et le vendre pour eux-mêmes. Donc, ils ont un petit peu changé depuis quelques années par rapport à c'était très rigide avant, c'était que pour l'État. Maintenant, ils peuvent gagner un peu d'argent direct.
Les citoyens, sont-ils classés par mérite, par ordre de mérite?
En fait, on dit qu'il y a des classes, un peu comme en Inde, un petit peu. Plus vous êtes loyaliste, plus vous êtes fidèle au régime, plus vous avez de chance de vivre à Pyongyang, la vitrine du régime, et de profiter de la fête foraine le soir, du cinéma dans la journée, etc.
À la récompense, c'est la ville.
La récompense, c'est ça. C'est la ville, c'est avoir une vie. Et même l'ultime récompense, c'est d'aller à l'étranger. C'est de voyager. Ça, c'est vraiment l'ultime récompense. Sachant que quand vous allez à l'étranger, on garde en général votre femme à Pyongyang ou vos enfants à Pyongyang. Et puis sécurité, on ne sait jamais, des fois vous ayez des mauvaises idées, vous voyez. Donc voilà, je ne rebondis plus sur le début de la question.
Non, vous avez raison. Et les citoyens de seconde zone, ils vont à la campagne.
Alors voilà, et moins vous êtes fidèle au régime, il y a deux solutions, soit vous êtes en camp, donc là vous n'êtes vraiment pas fidèle, ou soit effectivement vous faites quelques petites bêtises, et là on vous met au champ, dans des unités, on appelle ça des unités, environ ces 300 personnes qui travaillent, qui ont des objectifs, et bon, la vie est très 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 dure.
La Corée du Nord, un pays où l'image prime, où rien ne doit dépasser. On continue ce voyage édifiant sur RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
C'est un pays difficile à connaître, difficile à comprendre. La Corée du Nord est dans l'œil de notre curiosité avec le photoreporteur Eric Lafargue. Je rappelle que vous y êtes allé à plusieurs reprises. Et on va essayer de faire la part entre les clichés, la réalité, les fantasmes, parce qu'il y a forcément beaucoup de fantasmes autour d'un pays assez fermé. Est-ce que finalement vous avez rencontré quand même des Nord-Coréens qui peuvent parler librement?
Non. Malgré des relations, parce que les six fois où je suis allé en Corée du Nord, j'ai eu six fois les mêmes guides. Donc je demandais à retrouver les mêmes, etc., parce qu'il y avait une petite connivence, mais à aucun moment, ils se sont lâchés, ils m'ont dit... La seule fois où ils ont été négatifs, c'est quand j'ai vu un Hummer, la voiture américaine qui consomme 20 litres au 100, et là, mon guide m'a dit, c'est pas très bien, effectivement.
Mais attendez, il y a des Hummers en Corée du Nord?
Ouais. Il appartient, le Hummer que j'ai vu appartient ou appartenait, je ne sais pas, c'était il y a quelques années, au directeur du grand journal national. Donc,
c'est surréaliste.
Ça veut dire que les Nord-Coréens...
C'est surréaliste et hyper choquant quand on parle de la pauvreté.
Mais eux le voient. Eux le voient parce que c'est la première fois qu'ils m'ont fait une remarque négative sur le pays. Et là, ils ne pouvaient pas faire autrement non plus. C'était trop gros.
Vous passiez vos journées, vos heures, et pas vos nuits quand même, mais avec le fameux guide d'État qui vous suit tout le temps, Eric Lafargue. Est-ce que vous, quand même, il y a eu quelques moments de complicité, des fous rires entre humains?
Oui, parce que bon, ils aiment bien l'alcool, donc on partage des bières, on se raconte. Ouais. Et puis, alors, ils adorent vous dire qu'ils ont entendu des nouvelles de France ou d'Amérique.
Ah, qu'est-ce qu'ils retiennent de chez nous, par
alors,
exemple,
à l'époque,
France.
C'était l'époque Sarkozy. Ouais. Sarkozy avait divorcé. Et donc, il se faisait un plaisir de me raconter qu'il avait divorcé et maintenant, il était avec un mannequin. Donc, je pense qu'ils ont dû voir ça à la télévision, évidemment, d'État, puisqu'ils n'ont accès qu'à ça. Mais ça, c'était le gros buzz. C'était, on est au courant de ce qui se passe chez vous. On sait même que le président a divorcé et qu'il est avec quelqu'un qui est très grand, qui est de très grande taille par rapport à lui.
Quand voilà, vous rentriez dans votre hôtel, Éric Lafargue, vous allumiez la télévision et vous regardiez cette télévision d'État. Il y a quoi comme type de programme?
Alors, nous, on avait droit à deux chaînes. Apparemment, il y a plutôt 4-5 chaînes, dont une chaîne de sport qui marche bien là-bas. Mais nous, on avait droit aux chaînes de documentaires et aux chaînes de news. Alors, ça ne diffuse pas toute la journée, ça diffuse à partir de 17-18 heures. Mais quelquefois, on avait droit à BBC. Et donc, on pouvait voir BBC dans l'hôtel.
Mais pas censuré.
Non. Et même une fois, je suis allé au bus pour partir en excursion. Mmh. Et puis, j'ai oublié un truc. Je suis rentré dans la chambre et j'ai trouvé une femme de chambre assise devant la télévision en train de regarder la BBC. Alors, je pense qu'elle ne comprenait pas grand-chose, qu'elle ne parlait pas anglais. Mais voilà, elle savait qu'il y avait une chaîne avec une ouverture sur l'extérieur dans la chambre du touriste.
Alors, vous nous disiez tout à l'heure, Éric Lafargue, qu'on pouvait trouver de tout dans la capitale, Pyongyang. Est-ce qu'on peut manger des hamburgers? C'est-à-dire oui. le produit iconique de la société américaine.
Évidemment, puisque c'est Kim Jong-il qui l'a inventé.
Ah, c'est la première nouvelle.
En 89, c'est ce qu'on vous dit là-bas. Évidemment, c'est Kim Jong-il qui a inventé plein de choses. Hein. Il faisait des miracles aussi, il avait des pouvoirs surnaturels. Et donc, il a inventé l'hamburger. Et moi, quand j'y suis allé, alors c'était en 2013, je crois, ils avaient ouvert le premier hamburger dans un endroit où il y a une grande fête foraine, où bon, beaucoup, beaucoup de Nord-Coréens. Et ce qui était amusant, c'est que là-bas, ils ont un culte de la propreté. Tout doit être propre, les voitures, tout doit être propre. Et donc, ils mangeaient les hamburgers avec des gants en plastique. De peur de se salir. Voilà.
Alors, il y a quand même des questions taboues, j'imagine. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez ce guide d'État avec vous? Qu'est-ce qui se passe quand vous avez posé une question trop gênante?
Alors, il y a plusieurs solutions. Soit, ça devient ridicule, c'est-à-dire qu'il essaie de garder la face, un peu comme les Asiatiques, et on ne s'en sort pas. Vous voyez, je lui dis, par exemple, pourquoi vous attachez votre vélo? Il me dit, non, mais il y a des vols si vous attachez votre vélo. Il dit, non, il n'y a pas de vol. Bah alors, si vous l'attachez, c'est qu'il y a une raison. Et là, il vous dit, allez, on est en retard, on continue. Ou bien, oula, il est tard. On rentre à l'hôtel, on prend la douche, on se repose, on mange et on dort.
Même à 2h de l'après-midi.
Voilà,
quoi.
C'était, on tire le rideau.
Ouais. Et la vie de famille, comment ça se passe dans un pays comme la Corée du Nord? Réponse à venir sur RTL. Restez avec nous.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Les Nocturnes ont 45 ans. 1973, 2018, c'est aussi 45 ans de powerplay.
Tu rejoins. En 45 ans, plus de 15 000 powerplay ont été diffusés. J'en ai sélectionné 73 parmi les meilleurs.
73 titres, un livret de 20 pages, les notes de George Lang, la programmation détaillée en haute définition. Revivez l'ambiance de l'émission mythique des Nocturnes dans un luxueux coffret 4 CD proposé par la voix légendaire des nuits sur RTL.
Comment peut-on dire que les gens sont opprimés en Corée du Nord? Les enfants, les jeunes et jusqu'aux personnes âgées, nous sommes tous convaincus de l'idéologie du Juche. Et nous ne pouvons pas vivre sans elle.
RTL.
Nous n'avons rien à envier au monde. Nous vivons dans une très bonne maison, sans rien payer.
La curiosité est un vilain défaut.
Le jour où le bien-aimé général Kim Jong-il est entré dans notre maison, je me suis sentie comme si c'était mon propre père qui rendait visite à sa fille mariée.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Les secrets de la Corée du Nord, c'est ce qu'on vous révèle avec le photo reporter Éric Lafargue, notre invité. On entend tous ces Nord-Coréens qui ont l'air très heureux de vivre en Corée du Nord, qui apprécient leur leader. Est-ce qu'il y a un lavage de cerveau, un bourrage de crâne au quotidien et comment ils s'exercent sur les Nord-Coréens?
Alors ça commence très tôt, ça commence à je sais pas comment dire en français, le kindergarten, la crèche.
Oui, dès la crèche. La crèche. Vous avez raison.
Donc dès la crèche, on apprend la vie glorieuse de Kim Jong-il et Kim Il-sung. Donc, mais eux sont très fiers de vous montrer ça. Vous visitez des écoles, vous avez des bouts de choux qui font 35 cm de haut et qui vous racontent, donc, Kim Jong-il est né à tel endroit, il a fait ceci, il a fait cela. Mais les guides trouvent ça très bien, très positif.
C'est une histoire réécrite, inventée.
Ouais, on leur donne de nouvelles places de naissance, on invente des choses par rapport à leurs connaissances, par rapport à leurs faits de guerre. Le hamburger, par exemple, clairement, a priori, A priori.
Je crois que ce n'est pas lui qui l'a inventé.
A priori,
c'est pas Kim Jong-il en 2009.
Est-ce qu'on... vérifier.
Est-ce qu'on peut... Je voudrais qu'on parle, et il nous reste le temps file trop vite, mais quelques minutes de la vie de famille. Est-ce qu'on peut tomber amoureux? Est-ce qu'on choisit son mari ou sa femme?
Alors, c'est une question que j'ai posée parce que j'aime bien un petit peu aller au-delà des images, etc. Alors, on m'a expliqué qu'une fois de plus, il y a Pyongyang où là, on a une vie plutôt... normal, on va dire, puisqu'on fait partie de l'élite, donc on peut un peu choisir avec qui on
plus
sort.
Plus de marge de manœuvre.
Voilà, plus de marge de manœuvre. Et après, la campagne, comme dit mon guide, c'est mieux de demander aux délégués du parti. Quand on tombe amoureux de quelqu'un, c'est mieux de voir si c'est compatible. Parce que, pourquoi ? Parce que les gens sont des forces de travail à chaque fois. Ce sont des bras. Donc on ne va pas tomber amoureux de quelqu'un qui habite à 100 km, qui ne pourra pas venir, par exemple. Donc c'est un vrai souci. Le gros souci aussi, c'est le service militaire. Si vous épousez quelqu'un qui part au service militaire, il dure 10 ans, voire plus. Donc, moi, j'ai rencontré des familles où le garçon, enfin l'homme, était parti au service militaire et les gens disent « on ne sait pas quand il revient ». Et là, c'est choquant, c'est très choquant.
Que se passe-t-il en Corée du Nord quand on a une famille à des triplés, par exemple ?
Alors là, il y a un truc très spécial, c'est qu'on vous fait visiter des orphelinats. Et puis au bout d'un moment, on vous dit « les parents, les parents, les parents ». On dit « attends, il y a un orphelinat, il n'y a pas de parents normalement ». Et là, on vous dit « si, si, quand une famille a des triplés ou des quadruplés, en fait, l'État les prend en charge dans cet orphelinat, qu'ils appellent l'orphelinat, et s'occupe d'eux jusqu'à 4-5 ans. Et ce qui m'a vraiment choqué, c'est que c'était à Nampo, une ville du Sud. Je dis, mais quand est-ce qu'ils voient les parents? Et là, la personne rougit un petit peu, me dit, ben, ils les verront dans 3-4 ans. Parce que, voilà, on ne peut pas se déplacer, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de train, etc.
Et puis, il y a cette question aussi, Denis l'évoquait tout à l'heure, sur l'homosexualité. Est-ce qu'on peut être homosexuel en Corée du Nord? La question est absurde, mais je vous la pose.
Le mot n'existe pas.
Le mot n'existe
le
pas.
Le mot n'existe pas. C'est comme le sida. Quand vous demandez à votre guide, mais il y a du sida en Corée du Nord, il me dit non, il n'y en a pas.
Ils ne savent pas de quoi vous parlez en fait.
Zéro, il n'y a pas de sida. Et là, il m'a glissé une confidence. Il m'a dit, mais moi, comme je bosse avec des étrangers, tous les 3 mois, on me fait le test du sida. Et là, il n'a pas intérêt, évidemment, à avoir un souci à ce niveau-là.
Vous y êtes allé plusieurs fois, mais vous êtes banni. Hein, c'est d'ailleurs le titre de votre livre depuis plusieurs années. Est-ce que ça a un peu changé, d'après les infos que vous avez, la Corée du Nord, depuis 2-3 ans?
Oui, j'ai des amis qui y vont, enfin, qui arrivent toujours à y rentrer. Oui, ça change en surface. Il y a de nouveaux quartiers, de nouveaux restaurants. Il y a maintenant, vous pouvez faire, il y a des salles de sport, etc. Mais dans le fond,
et l'information.
Alors l'information change aussi parce qu'il y a une porosité au niveau de la distribution de l'information. Aujourd'hui, avec une clé USB de 64 gigas, vous passez des séries, des chansons, des journaux. Donc tout, il y a des Nord-Coréens qui voyagent, même très régulièrement en Chine pour faire du business. Et ceux-là, effectivement, ils rentrent pas les mains vides, clairement.
Merci infiniment, Éric Lafargue. C'était passionnant. Plein d'autres histoires que vous racontez et de photos magnifiques que vous publiez dans Banni de Corée du Nord. C'est aux éditions Hachette Tourisme. À bientôt, Micro de la Curiosité.
Merci.